Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et si vous faisiez de votre anxiété une alliée? Rien de plus désagréable en effet que l'anxiété. Estomac et gorge nouées, sueur froide, frissons, rumination mentale, anticipation du pire. Et si je n'y arrivais pas? Et si je ne lui plaisais pas? Et si je ne pouvais plus régler mon loyer, payer mon crédit? Et si j'étais licencié? Et si la guerre frappait à nos portes? Pour Charles Darwin, l'anxiété, c'est l'anticipation d'une souffrance future. Elle fut essentielle à notre survie, mais vous le verrez, ce matin, l'anxiété peut devenir un super pouvoir, selon notre invitée, la neuroscientifique américaine Wendy Suzuki. Alors comment faire de l'anxiété quotidienne une force? Comment la transformer en signal d'alarme qui indique les changements à opérer dans sa vie? Comment faire de cette anxiété à bas bruit un instrument qui stimule notre corps et notre esprit avec des répercussions positives sur notre physique, notre intelligence, nos émotions? Éléments de réponse ce matin. N'hésitez pas à nous appeler, à témoigner au 01 45 24 7000 ou en nous laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Marie-Laure Sonnenschein.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef à Femme Actuelle. Pas trop anxieuse ce matin car il va falloir que vous posiez des questions encore plus pertinentes que la semaine dernière.
En tout cas, la bonne anxiété n'est pas un oxymore. Alors ça, c'est quand même la bonne nouvelle du jour.
Bonjour Christophe André.
Bonjour.
Alias l'anxiolytique vivant. À son contact, l'anxiété s'évanouit. Quel est le menu de vos choses vues?
Eh bien justement, repas de secours, pleine conscience et pommes rouges sont au menu.
Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébi, Grand Bien vous fasse.
Oh, la crise d'angoisse, vous allez voir, c'est très simple. Il s'agit de la peur de mourir subitement, à tout moment, et sans raison. Ah, quelle maladie enchanteresse. Allô, 18? Oui, c'est... Non, c'est pas Nicolas Hulot, c'est Florence Foresti, imbécile. Je respire dans un sac. Je vais mourir, là. Est-ce que vous pouvez venir? Non, il faut venir, je sens que je vais crever, je vais y passer, là. Hein? Ouais, non, non. Non, ouais, je sais, mais hier, c'était un exercice. Voilà. Là, vous êtes bien au point, il faut venir. Hein. Non, je le sens, je suis pas bien. J'ai perdu l'usage de la parole, là. Je crois que c'est un AVC, hein. De manière certaine. Ouais, ouais, non, je péris, là. Je dépéris, je repéris, je catipéris, là. Ça périt dans tous les sens.
Le personnage anxieux de Florence Foresti qui devrait écouter notre émission ce matin. Bonjour, Wendy Suzuki.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir à nouveau dans cette émission. Vous êtes docteur en sciences, neuroscientifique. Vous dirigez un laboratoire de recherche à l'Université de New York. Vos travaux ont été couronnés par l'Académie nationale des sciences des États-Unis. Dans votre précédent livre, vous indiquiez comment l'activité physique peut nous rendre plus intelligents. Et vous venez de publier chez Marabout avec Billy Fitzpatrick un livre absolument passionnant. Votre anxiété est un super pouvoir. Comment s'en servir pour améliorer sa vie? D'abord, pourquoi ce livre? Comment ce livre est né?
Bon, ce livre a été né parce que j'ai vu dans mes étudiants à l'Université de New York le niveau très haut d'anxiété. Et ça, c'était juste avant le commencement de pandémie mondiale. Et à ce moment-là, on oublie qu'il y a des problèmes politiques, des problèmes de climat, des problèmes des réseaux d'actualité. Et à ce moment-là, c'était pas seulement des étudiants, c'était moi, c'était mes collègues. Alors c'était pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre.
Et vous parlez un français à la perfection. Ah. Bonjour professeur Antoine Pellissolo.
Bonjour.
Vous êtes chef de service psychiatrie au CHU Henri Mondor et Albert Chenevier à Créteil, et vous avez notamment publié chez J'ai lu Vous êtes votre meilleur psy. Wendy Suzuki, c'est contre-intuitif de proclamer que l'anxiété peut être une amie, une alliée, quand on connaît les désagréments de l'anxiété.
Oui, oui, c'est vrai. Mais le centre de mon livre, c'est l'idée que l'émotion d'anxiété et le stress physiologique qui en résulte nous est évolué pour nous protéger. Alors ça, c'est le centre, l'idée de la protection. Et je sais très bien que tout le monde dit, bon, je me sens pas très protégée de mon anxiété à ce moment-là. Et c'est parce que au niveau d'individu, au niveau de société, le niveau d'anxiété est très, très élevé. Et à ce stade d'élévation, l'anxiété n'a plus la capacité de nous protéger. Alors, l'étape première de mon livre, c'est d'apprendre dès les expériences de neurosciences, des expériences de psychologie, de baisser les niveaux d'anxiété.
Vous êtes d'accord avec cette idée, professeur Pellissolo ?
Oui, je crois qu'évidemment, la fonction même de l'anxiété comme de la peur, oui, c'est avant tout de nous protéger, hein, évidemment. Voilà. Et qu'après, c'est une question de degré, comme vous le dites. Et comment on réagit face à l'anxiété. Souvent, les problèmes que nous, on voit chez des personnes qui souffrent de leur anxiété, c'est qu'elles se positionnent de manière naturelle au départ, parce que c'est une réponse logique de fuir l'anxiété. Mais cette réaction de fuite, en tout cas de tout faire pour éviter l'émotion et l'anxiété, c'est ça qui pose problème au final.
Voilà.
Qu'est-ce que l'anxiété et à partir de quel moment l'anxiété devient-elle pathologique ?
Alors c'est quelque chose de progressif, on a toujours du mal à dire c'est tel point exactement. D'abord c'est variable selon chaque personne. On a en fait, quand je disais les réactions à l'anxiété, c'est ça qui pose problème. C'est à quel point on supporte mal l'anxiété et on va faire des choses qui ne sont pas bénéfiques pour soi. Et donc ça dépend en fait du degré de souffrance, de ressenti. Et le problème majeur, c'est quand on en souffre du matin au soir, on va dire. Donc une question de temps dans la journée et puis aussi de perte de liberté d'action, puisque quand l'anxiété empêche d'agir correctement, gêne les choix, font faire des mauvais choix en général, là on peut dire qu'il y a un souci.
Qu'est-ce que l'anxiété ? Est-ce la même chose que l'angoisse ?
C'est assez proche. Je pense que l'anxiété, c'est vraiment la peur projetée dans l'avenir et métabolisée par notre appareil à se projeter et à réfléchir. Ce sont des questions au départ. Je pense qu'on peut raisonner comme ça. Dans votre introduction, vous disiez « et si, et si, et si ». Donc « et si telle chose arrive, et si telle chose arrive ». Et c'est ça qui est positif en général, c'est quand même de se poser des questions. Et quand on est anxieux de manière excessive, c'est qu'on cherche à tout prix des bonnes réponses et rassurante, alors qu'il n'y en a pas toujours. Et c'est ça qui fait, en général, monter. Alors, les autres composantes de l'anxiété, c'est évidemment ce qu'on ressent dans le corps, hein, vous l'avez dit aussi. Il y a les questions, plus le stress, la tension interne, les symptômes physiques, et plus c'est élevé, plus c'est douloureux, en général.
Wendy Suzuki, l'anxiété quotidienne est différente du trouble anxieux généralisé. Vous vous intéressez, dans votre livre, à cette anxiété quotidienne qui évolue à bas bruit et qui est rarement prise en compte, hein.
Oui, c'est vrai, parce que on sait qu'il y a un grand spectre de l'émotion d'anxiété, de un peu, moyennement, beaucoup, et puis l'anxiété clinique. Et moi, je m'intéresse à l'anxiété quotidienne parce que c'est la plupart de gens mondiaux qui a ce niveau d'anxiété. Et j'ai écrit ce livre pour mes étudiants, pour moi, pour avoir des outils utile pour se combattre. Alors le grand public qui peut utiliser ces outils que j'écris dans mon livre.
Christophe André, à l'époque où nous étions des chasseurs-cueilleurs, l'anxiété était essentielle à notre survie. Hein ?
Oui, grâce à l'anxiété, notre cerveau fait tout seul le travail de surveillance, d'anticipation, d'interprétation. C'est-à-dire, c'est un mécanisme qui est vraiment en place cérébralement. Il est livré de série avec les petits humains lorsqu'ils viennent au monde. Ils ont déjà leur cerveau prêt à faire attention aux dangers. D'ailleurs, il y a beaucoup de peurs qui sont déjà présentes chez les bébés. Les bébés n'aiment pas les bruits violents, n'aiment pas le noir, n'aiment pas le vide assez rapidement. Et après, en grandissant, peu à peu, le cerveau se développe et l'anxiété se développe aussi. L'anxiété s'ajoute à la peur. C'est-à-dire les enfants, à partir de 4-5 ans, commencent à se demander, finalement, si papa ou maman va rentrer le soir. Moi, je me souviens d'un petit enfant, un petit garçon, qui rentre à l'école, au cours préparatoire, le premier jour de cours préparatoire. Alors, ses parents lui avaient dit « Tu verras, au cours préparatoire, tu vas apprendre à lire ». Et il rentre le soir effondré en disant « Je sais toujours pas lire ». Et très inquiet en pensant que voilà, le jour où je serai au cours préparatoire, je saurai lire. Et cette capacité d'anticiper le futur, c'est une chance. Ça nous rend créatifs, ça nous permet de faire des projets. Et c'est aussi une malchance parce que ça fait un peu qu'on a tendance à se regarder plutôt les dangers qui pourraient arriver dans notre avenir plutôt que les chances.
Wendy Suzuki, du point de vue de l'anxiété, est-ce que mon cerveau, le cerveau de Marie-Laure Zonshine, est différent de ceux de nos ancêtres de la préhistoire?
Non, c'est le même. Autour de le système de stress, c'est le système nerveux sympathique, c'est le système de combat ou de fuite. Parce que c'est le danger. On a toujours le danger il y a 2 millions d'années et aussi ici.
Et notre corps et notre cerveau ne font pas la différence entre une anxiété générée par des facteurs réels et une anxiété liée à des situations imaginaires et hypothétiques avec des conséquences dans notre vie quotidienne.
Oui, ça c'est le problème parce qu'il y a 2 millions d'années, les problèmes étaient juste en face de nous, des lions, des tigres, des ours. Et aujourd'hui, c'est des possibilités qui sont qui nous engagent. Alors, mais c'est la même réponse de stress et c'est très mauvais parce que un niveau très haut de stress pour longtemps, c'est des difficultés avec le corps et avec le cerveau.
Professeur Pellissolo.
Oui, et puis la grande différence par rapport à ce que vous décrivez, qui sont les réactions de peur un peu immédiates et basiques, c'est que en plus de cette projection dans l'avenir, il y a cette illusion qu'on peut contrôler tous les risques, en tout cas on voudrait contrôler tous les risques et faire comme si le risque zéro existait, par exemple. Et en fait, s'inquiéter, par exemple, aux questions derrière l'avenir, aujourd'hui, demain, après-demain, c'est toujours avec l'illusion qu'on va supprimer ces risques. Et dans la réalité, ce n'est juste pas possible. Et donc on peut passer son temps, comme vous disiez, à imaginer des choses pour essayer de résoudre des problèmes et ne jamais les résoudre, et donc générer sa propre anxiété de manière infini.
Alors Wendy Suzuki, vous distinguez dans votre livre l'anxiété négative et l'anxiété positive. Ça peut paraître étrange qu'il puisse exister une anxiété positive. Quelle est la différence à l'aide d'exemples très concrets?
Bon, l'anxiété négative, c'est par exemple samedi soir, je me suis dit... Et si le public général français ne me comprend pas avec mon accent américain, bon, c'est ça me donne un peu d'anxiété. Et je peux rester dans la peur de cette pensée, ou bien je peux déclencher mon super pouvoir d'anxiété. C'est le super pouvoir d'action. Qu'est-ce que je fais? Bon, je travaille mon français, j'écoute des émissions français, j'ai lire en français.
Vous avez écouté Christophe André hier?
Oui, hier soir, au télévision. Il m'a aidé à améliorer mon français. Et ça, c'est un super pouvoir de productivité. Si vous faites ça, ça peut vous aider d'être plus productif. Et ça, c'est un des cadeaux d'anxiété.
Si je comprends bien, Christophe André, l'anxiété positive, c'est de se mettre en action, de se dire, OK, il y a une anxiété, j'ai peur, mais je vais me mettre en action pour transformer cette émotion désagréable. J'ai bien compris?
Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'une des souffrances de l'anxiété, c'est pas seulement le moment où on se pose la question, comme disait Wendy Suzuki, est-ce que je vais arriver à... C'est qu'après, notre cerveau continue avec cette question. Et c'est les ruminations, les préoccupations, tout le temps, et c'est cette permanence de l'anxiété qui nous fait du mal. Donc, quand on arrive à se dire « Ok, tu t'es posé la question, c'est une bonne question, qu'est-ce que tu peux faire ? Comment te mettre dans l'action pour améliorer ?» C'est exactement ce que Wendy a fait, et c'est une des grandes solutions à l'anxiété, effectivement.
Professeur Pellissolo.
Oui, c'est essayer de résoudre le problème. C'est pas d'essayer d'être moins anxieux pour être moins anxieux, parce que sinon il y a d'autres manières qui sont malheureusement un peu artificielles. Vous auriez pu aller boire un verre pour vous soulager, mais ça aurait été ça aurait été une mauvaise solution en tout cas pour votre bien-être parce que ça n'aurait pas résolu le problème du français par exemple et ça vous aurait exposé à quelques risques. Et l'autre point important, c'est que très souvent l'anxiété, une autre vertu importante, c'est une espèce de sixième sens. C'est aussi nous alerter quand même sur des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé, sur probablement l'accumulation de tout ce qu'on a vécu dans sa vie. On a en nous un patrimoine de connaissances du monde et parfois il ne ressurgit pas avec des pensées, il ressurgit avec des émotions. Et c'est toujours utile d'avoir ce pouvoir-là, ça fait partie d'un pouvoir supplémentaire, qui permet d'analyser les situations de manière un peu plus intuitive que par le raisonnement classique.
Alors pour réguler notre anxiété, eh bien nous utilisons des stratégies plus ou moins adaptées pour en finir avec ces émotions désagréables. Oui. On appelle ça des stratégies de coping, en anglais. Des stratégies négatives comme boire beaucoup d'alcool, prendre de la drogue pour apaiser cette anxiété. Et puis des stratégies plus positives, méditer, marcher dans la nature, téléphoner à un ami.
Voilà. Bon, les deux qui sont très puissants, c'est pas seulement la méditation, mais la respiration. La respiration profonde, et ça marche parce que ça déclenche notre système anti-stress naturel. C'est une partie du système nerveux qui s'appelle le système nerveux parasympathique. Et ça nous déstresse naturellement. Et deuxièmement, c'est l'exercice physique qui est très puissant à nous déstresser parce que chaque fois qu'on en bouge notre corps, il déclenche des substances neurochimiques dans le cerveau, des substances comme dopamine, sérotonine, noradrénaline, ou des endorphines, des facteurs de croissance qui sont très bons pour le cerveau. Alors, j'aime bien dire que chaque fois que vous bougez votre corps, c'est comme vous donnez un bain moussant de substances neurochimiques bien pour élever l'humeur.
Et pour vous, c'est le yoga, hein? Le yoga.
Non, pas le yoga. J'aime bien. Bon, je fais le yoga, mais pour moi, c'est j'aime bien le kickboxing. Je suis instructeur de sport de Dentansati. C'est une sorte d'exercice où on fait des mouvements comme le kickboxing, la danse et le yoga avec des affirmations orales positives.
Will Smith, si tu nous entends, si vous aviez envie de donner une claque à Wendy Suzuki, elle saurait très très bien réagir. Question de Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
Oui, Wendy Suzuki, avant d'en venir alors au kickboxing ou autre, en tout cas aux moyens positifs de combattre cette anxiété, quand même, l'anxiété, qu'il s'agisse d'un problème personnel, professionnelle, de couple, est-ce qu'elle déteint en quelque sorte sur le reste? Est-ce qu'on peut vraiment cloisonner une situation donnée, un point d'anxiété sur une chose précise et le reste va bien? Ou finalement, c'est un écoulement et tout est focalisé, finalement, tout est mélangé, tout devient anxiogène finalement?
Bon, je pense que tout mélange, c'est facile dans la vie pour que tout mélange et c'est difficile de faire un focus spécifique à une chose. Et c'est ça pourquoi, c'est ça exactement pourquoi je dis que la première étape, c'est d'apprendre pour vous-même de baisser le niveau d'anxiété. Parce que c'est un peu différent pour toutes les personnes. Pour des personnes, c'est je regarde une Netflix émission pour le comédie. Et pour les autres, c'est les exercices physiques. Pour les autres, c'est une sorte, une type spécifique de méditation. Moi, j'ai fait, par exemple, une méditation de thé. C'est méditation en préparant le thé. Voilà. Et c'est ça ce que la troisième partie de mon livre elle s'appelle l'art de bien s'inquiéter et c'est plein des exemples, des choses que vous pouvez faire à ce moment-là pour baisser les niveaux d'anxiété.
Antoine Pellissolo, sur le débordement de l'anxiété dont parlait Marie-Laure.
C'est une question intéressante, mais un peu compliquée. On a tendance à penser que quand on a un sujet d'inquiétude, on n'en a qu'un seul à la fois. Mais par contre, il change tout le temps. Enfin, pour certaines personnes. Les grands anxieux, en général, ont un sujet principal, mais des moments où ils peuvent passer sur autre chose. Donc, c'est probablement lié aussi aux capacités humaines. On peut pas faire 36 choses en même temps de manière correcte. Donc, ça déteint aussi sur la thématique. Mais vraiment, c'est vrai qu'il y a... les grands classiques, en fait. Et d'ailleurs, qu'on soit anxieux ou pas, on a les mêmes sujets d'inquiétude, hein. C'est la santé, c'est l'avenir, c'est l'argent, c'est la mort, quand même, derrière. Mais, et donc.
Et Dieu sait s'il y a eu des sujets d'anxiété ces deux dernières années, entre le coronavirus, la guerre en Ukraine.
Mais vous voyez, on passe quand même d'un sujet à l'autre. C'est-à-dire qu'on parle moins en ce moment du coronavirus, alors que, parce qu'il y a la guerre.
Christophe.
Certains chercheurs considèrent que l'anxiété, c'est une forme d'intolérance à l'incertitude.
Voilà.
Et dès que quelque chose est incertain, eh bien, notre anxiété commence à augmenter en se disant « Mais qu'est-ce qui va se passer demain, dans 8 jours, sur la guerre, sur le Covid, etc. Oui. » Vous êtes d'accord,
Wendy? Oui, je suis absolument d'accord. Et pour ça, je dis que l'anxiété peut nous enseigner sur les choses qui nous tiennent à cœur. Qu'est-ce qu'il est important pour vous? C'est au cœur des choses qui vous inquiètent. Et pour moi, ça m'a aidé beaucoup de baisser les niveaux de mon anxiété. C'est de me rendre compte que c'est une sorte de apprentissage. Toutes les émotions difficiles, pas seulement l'anxiété, mais la tristesse, la douleur, tout ça nous tient à des choses qui sont importantes pour nous.
Allez, dans quelques instants, des outils pour transformer l'anxiété négative en super pouvoir. Ce sera juste après Néné Chérie qui interprète Woman à 10h27. Interpréter Woman.
Calme-toi. Il n'a pas dit que tu avais quelque chose.
Grand bien vous fasse.
Simplement, il n'aime pas cette tâche qu'il a vue sur ta radio, c'est tout. Ça ne veut pas dire que tu as quelque chose.
Ali Rebéi.
Pas de conclusion hâtive. Il ne peut rien t'arriver.
Sur France Inter.
Ne panique pas.
Je meurs. Je meurs.
Comment faire de l'anxiété une alliée? Comment faire un super pouvoir? C'est notre thème ce matin, en compagnie de la neuroscientifique américaine Wendy Suzuki, au français parfait, et avec le psychiatre Antoine Pellissolo, sans oublier notre psy maison Christophe André, et notre journaliste Marie-Laure Zonshine. Alors, Inès nous a écrit un message sur notre page Facebook, et nous dit que la méditation, l'écriture, la marche en nature, la sophrologie l'aident, mais sur une courte durée, avant que l'anxiété ne reviennent. Comment expliquer cela?
Bon, parce que...
Ça ne dure jamais... elle utilise des techniques, mais voilà, l'anxiété revient beaucoup trop vite à son goût.
Oui, c'est vrai, mais si vous changer le niveau d'exercice physique, par exemple, ou le niveau de méditation pour longtemps, ça fait des changements dans le cerveau. C'est la plasticité
cérébrale.
Et ça, c'est la plus importante pour les gens qui veulent vraiment changer au niveau de base, qu'est-ce qui, les sentiments, les émotions.
Christophe André.
Oui, oui, c'est beaucoup de patients anxieux sont déçus effectivement parce qu'ils font un effort, ça les soulage et puis l'anxiété revient toujours. Mais ce qu'on leur, on peut leur répondre, c'est d'abord que l'anxiété revient parce que la vie est compliquée, parce que vivre, c'est avoir des ennuis, avoir des petits ennuis dans notre vie, des soucis d'argent, des soucis avec les enfants, le conjoint, ou des gros ennuis sur notre planète, l'écologie, la guerre, etc. Donc, c'est normal que l'anxiété revienne régulièrement. Deux, il y a quelque chose qui ressemble un peu à la condition physique. Si je veux que mon corps aille bien, il faut que je fasse du sport toute ma vie. Oui. Et pas juste une fois. Et si je veux que mon cerveau aille bien, et pour, comme le dit Wendy Suzuki, que l'anxiété soit plutôt une alliée, une force, plutôt que quelque chose qui me fait du mal, je dois aussi répéter la sophrologie, l'écriture, le kickboxing, toutes ces choses-là.
Professeur Pellissolo.
Oui, alors c'est vrai que cette discipline qui peut paraître un peu contraignante, en effet, si on l'a pas, en gros, intégré à son mode de vie, hein, c'est vrai que si on prend ça comme une corvée, évidemment, c'est pas très très joyeux et l'effet est souvent un effet transitoire. Alors quand l'effet est trop transitoire, je pense que ça, c'est là quand même qu'on peut s'interroger sur d'autres ressorts qui pourraient être utiles quand même de creuser un peu, qui sont des problématiques personnelles qu'il faut un petit peu élaborer, comme on dit en psy, ou alors réellement faire des choix de vie qui sont peut-être encore en maturation. Et c'est vrai qu'on voit des gens évoluer dans leur vie qui sont très anxieux en fait pendant le début de leur vie, puis finalement ont trouvé leur rôle probablement à un moment donné, leur place dans la vie qui fait que l'anxiété diminue. Mais il y a un côté un peu, on va dire, symptomatique au départ avec ces outils-là, et puis d'autres qui sont un peu plus curatifs entre guillemets quand on a vraiment besoin de ça.
Claire nous écrit, elle se demande en quoi l'anxiété est une force. Elle nous dit, pour moi c'est une paralysie, passer à l'action, mais comment faire? Elle est paralysée par l'anxiété. Quel conseil pouvez-vous lui donner? Elle n'arrive pas à se mettre en action.
Oui, bon, avant de se mettre en action, il faut trouver des techniques pour baisser les niveaux d'anxiété. C'est pas le même pour tout le monde. Alors, il faut faire une exploration, une sorte d'expérience à soi-même.
De voir ce qui marche.
Oui, voilà, voilà. Et bon, c'est différent, mais vous le savez déjà. Les choses qui vous font sourire, c'est les choses qui vont baisser les niveaux d'anxiété. C'est quoi dans la vie? Vous savez déjà, essayez de faire ça.
Christophe.
Et puis, vous en parlez dans votre livre aussi, il y a quand même parfois des formes d'anxiété qui sont des maladies anxieuses. Voilà. Vous parlez de l'anxiété généralisée, des attaques de panique, etc. Oui. Et là, il faut les soigner.
Oui. Il faut consulter.
Consulter. Et après, on pourra faire ses efforts pour maintenir le résultat.
Voilà, voilà. Absolument.
Et puis, alors, c'est vraiment un aspect diagnostique qui est quand même utile, en effet. Et il y a quand même toujours en arrière-fond, à la fois de l'anxiété un petit peu normale, comme vous la décrivez, et puis des troubles. Quand même, à chaque fois, la peur, en fait, la peur de l'anxiété, la peur de la peur. Et très souvent, c'est ça qui déclenche la panique, c'est ça qui déclenche ce rejet, cet évitement. Donc, peut-être qu'un premier pas, qu'il soit vraiment par soi-même ou avec un professionnel, en général, c'est déjà d'avoir bien compris que l'anxiété n'est pas dangereuse en elle-même, parce que le nombre de personnes qui ont peur de mourir de peur, par exemple, c'est impressionnant. Et c'est assez naturel, d'ailleurs, au départ, d'avoir ce sentiment. Et c'est un premier pas qui peut être utile pour ensuite s'y confronter de manière progressive.
Je vous propose d'écouter le psychiatre et éthologue Boris Cyrulnik, qui nous donne la définition de la résilience au cœur du livre de Wendy Suzuki.
C'est un mot français qui est quotidiennement appliqué dans les milieux de la métallurgie. Ça veut dire qu'un métal garde sa structure ou reprend sa structure, quelles que soient les pressions ou les coups du milieu. Donc ça sert de métaphore en psychologie ou en sciences sociales pour dire qu'une personne blessée peut reprendre son développement malgré un traumatisme de la vie, c'est-à-dire que sa vie ne s'arrête pas au traumatisme, il peut reprendre une autre forme de développement après le traumatisme. Les hommes ont le génie du malheur, les traumatismes ne manquent manque pas dans une vie humaine, puisque 50% d'entre nous ont été ou seront traumatisés au cours de leur vie, 25% d'entre nous auront deux traumatismes graves au cours de leur vie, et ceux qui auront la chance d'échapper au traumatisme n'échapperont pas aux épreuves de la vie.
Boris Cyrulnik, dans l'émission Alter Ego de notre camarade Patricia Martin, en février 2002, alors la résilience, c'est donc cette capacité à s'adapter et à se remettre d'une épreuve. Wendy Suzuki, vous écrivez que l'anxiété peut nous aider à faire le plein de résilience.
Oui, et ma définition de la résilience vient des expériences dans les animaux. Alors, dans ces expériences, on a donné aux petits rats des petites expériences stressées pendant la vie. Et d'autres petits rats, pas de stress du tout. Ils étaient dans le luxe, pas de problème. Et ce qui s'est passé, c'est quand ils étaient adultes, c'était les rats qui avaient plusieurs expériences de stress qui étaient plus résilients. Et les autres, qui n'avaient pas de stress du tout, n'avaient pas aucune idée comment s'agit en face du stress. Alors, c'est l'idée que il y a un apprentissage de résilience à cause du stress. Alors, chaque instance de stress peut vous aider à élever le niveau de résilience en vous.
Et ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que l'anxiété est une sonnette d'alarme pour nous dire qu'il est temps de nous reconstruire, de prendre soin de nous.
Oui. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un système de warning. Qu'est-ce que ça veut dire pour ce moment-là? Est-ce que je dois travailler mon français? Est-ce que je dois essayer de dépenser moins d'argent à ce moment-là? C'est quoi le warning pour vous? Si c'est un warning, c'est moins stressant que c'est la fin du monde que je connais maintenant. Et c'est une sorte de changement de l'état d'esprit, de mindset. Ça, c'est très puissant et j'ai décrit ça beaucoup dans mon livre.
Prenons un exemple tiré de votre vie personnelle, Wendy Suzuki. Vous le racontez dans votre livre. 3 mois après le décès de votre père, votre frère meurt à l'âge de 51 ans d'une crise cardiaque. Racontez-nous comment le chagrin et l'anxiété vous ont permis d'entrer en résilience.
Oui, ça m'a permis d'entrer en résilience et ça a changé complètement les livres parce que ça s'est passé juste au milieu de l'écriture quand j'ai écrit le livre. Et je me suis rendu compte que la grande douleur dans la vie vient la grande sagesse. Et c'est quoi la sagesse de la mort de mon père et mon frère? La sagesse, c'est l'idée que derrière la tristesse, la douleur, le plus grand de ma vie, c'était l'amour de mon frère et mon père. Ça, le centre, c'est l'amour. Et ça m'a aidé beaucoup d'avoir plus de résilience.
Vous avez changé votre rapport à l'anxiété avec ces événements et vous avez découvert des ressources intérieures.
Voilà. Et ça a changé le livre parce que à ce moment-là, je me suis rendu compte que l'anxiété, c'est pas le niveau de douleur que j'avais avec cette expérience, mais c'est une petite douleur chaque fois. Et si je peux apprendre quelque chose de grande douleur, qu'est-ce que je peux apprendre sur les petites douleurs d'anxiété? Et c'est ça où j'ai trouvé tous les super-pouvoirs d'anxiété. Je n'expliquerais pas dans cette façon si je n'avais pas cette expérience.
La question à se poser, c'est comment faire pour que l'anxiété devienne un catalyseur de changement? Comment faire pour que l'anxiété devienne une expérience dont on tire des leçons?
Oui, c'est un changement d'état d'esprit. Pour moi, c'est tout ça. Ces changements, c'est pas seulement la tristesse. Ça peut m'enseigner quelque chose de très important dans ma vie.
Christophe André,
Oui, c'est effectivement, vous parliez de signal d'alarme, Wendy Suzuki, c'était l'anxiété. Si on la prend comme une alerte par rapport à un problème à régler ou un danger à venir, c'est très bien. Le problème, c'est quand elle prend le contrôle de notre cerveau, quand elle devient un maître, mais c'est un bon serviteur. On dit en français souvent, l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Et l'anxiété, c'est pareil. L'anxiété est un bon serviteur et un mauvais maître. Et tout le travail, c'est de garder cette anxiété juste comme signal d'alarme et après de décider effectivement qu'est-ce qu'elle nous montre d'important et comment agir. Pour dans cette valeur importante, l'amour, la vie, le contrôle, la tranquillité, la sécurité. Souvent, l'anxiété, elle nous rappelle qu'on a besoin de sécurité.
Voilà.
Et la sécurité, c'est souvent dans l'amour, dans la stabilité, dans ce qu'on fait de notre vie, qu'on peut la trouver en partie.
Antoine Pellissolo.
Oui, alors je reviens au mot que j'utilise tout à l'heure, le sixième sens, parce que c'est un peu ça, c'est une information en plus, et en plus le sens, c'est un double sens, c'est comment on va analyser ce qui compte dans sa propre vie, vous l'avez dit, de relativiser en fait aussi les facteurs de stress ou des événements qui nous arrivent. Et donc ça permet de donner du sens à la vie tout simplement et donc à se reconstruire avec des pertes quand c'est des deuils malheureusement, mais en incorporant cette expérience dans sa lecture du monde, il y aura toujours une part d'anxiété, mais qu'on pourra probablement relativiser parce qu'on aura eu une trajectoire positive autour de ça.
Wendy Suzuki, si je vous ai bien lu, il faut prendre le temps d'observer ce que notre anxiété veut nous montrer.
Oui, voilà, c'est très important. Et c'est des informations, toutes les émotions, des émotions heureuses et des émotions difficiles sont des informations pour nous enseigner quelque chose. C'est quoi est-ce que vous allez apprendre? C'est ça la question qu'il faut poser.
Et ça nous permet d'agir.
Voilà.
Et nous accueillons Isaline. Bienvenue Isaline.
Oui, bonjour. bonjour à tout le monde. Voilà. Écoutez, je suis vraiment surprise et satisfaite parce que figurez-vous qu'en écoutant votre émission, que j'écoute tous les jours,
merci,
je viens de m'apercevoir que je viens de me poser un diagnostic sur moi-même. Pendant 69 ans, je me suis posé des questions et je viens de me rendre compte que j'étais une grande anxieuse.
D'accord.
Et voilà, donc j'étais infirmière, je suis infirmière à la retraite et j'ai passé toute ma carrière à anticiper les diagnostics, les pires. Parfois ils n'arrivaient pas, parfois ils arrivaient. Et quand les soucis arrivaient, la problématique arrivait, je gérais beaucoup plus facilement parce que je m'attendais au pire. Et dans la vie, c'était la même chose. Je me suis toujours occupée de beaucoup de personnes. J'ai pris en charge beaucoup de personnes. J'ai passé ma vie à aider tout le monde. Et je viens de me rendre compte aujourd'hui à la retraite que je ne sais pas qui je suis. Et je viens de me rendre compte que j'étais une grande anxieuse. Et ma question, est-ce que par hasard...
On n'aura pas votre question. Est-ce que Isaline, est-ce que vous êtes encore là? On est frustrés. Vous êtes là, Isaline? Isaline.
Mais non, mais c'est parce que j'ai passé mon temps par exemple, j'allais en vacances au bord de la mer, à la plage. Au lieu d'aller me baigner, je restais assise à la plage et je surveillais les baigneurs. Donc je pense que là, quand même, et j'osais pas aller me baigner parce que j'ai toujours peur que quelqu'un se noie. J'avais une responsable chef de clinique qui me disait, Isaline, vous avez plus d'une corde à votre arc parce que j'anticipais énormément les choses sur ton cardiologie.
Mais ça a été une alliée, Isaline, cette anxiété avec le recul.
Recul aujourd'hui, maintenant, oui, je pense que ça m'a beaucoup apporté parce que je n'avais pas de surprise, si vous voulez. Dès qu'il y avait quelque chose de plus compliqué, on venait chercher Isaline parce qu'elle gérait les problèmes. Mais je les gérais, mais c'est parce que pour moi, c'était facile. Je les avais déjà anticipés. Ouais.
Isaline, vous la voyez pas à l'antenne, mais Marie-Laure Zonshine n'arrête pas d'acquiescer à tout ce que vous dites. J'ai l'impression que vous allez devenir amis. J'ai l'impression que ça vous parle. Marie-Laure, ça vous parle ce que dit Isaline?
Ah oui, je trouve ça fascinant, mais probablement nos deux médecins pourront nous le dire, elle est infirmière. Enfin, c'est consubstantiel à ce qu'elle est.
Christophe André. Ça l'a certainement rendu meilleure infirmière, mais aussi ça lui a certainement gâché des moments de vie, et provoqué des moments d'insomnie, ou ça lui a fait rater des baignades aussi.
Antoine Pélissolo.
Il y a vraiment les deux versants du problème. Anticiper, quand ça n'empêche pas d'agir, c'est plutôt positif, et elle dit bien, une fois qu'on a envisagé le pire, le pire arrive rarement, donc on est plutôt satisfait, on est content, à condition de ne pas s'être privé de certains plaisirs. Donc le mauvais versant de la pièce, c'est en effet si on n'arrive pas à agir tel qu'on le souhaiterait. Donc il faut trouver le bon dosage. Et je ne suis pas sûr qu'Isaline ait eu cette expérience que négative, visiblement, aujourd'hui.
Merci beaucoup, Isaline, de nous avoir appelé. Il est 10h46 et c'est l'heure de retrouver les choses vues de Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre ?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute ?
Christophe André.
Ce qu'il y a de bien avec l'anxiété, contrairement à beaucoup de souffrances psychologiques, c'est qu'on peut en sourire. J'ai soigné beaucoup de patients anxieux dans ma vie de psychiatre et je me souviens de tout un tas d'histoires à leur propos dont ils riaient eux-mêmes en me les racontant. Après coup, bien sûr, parce que les montées d'angoisse, sur le moment, ça fait pas trop rigoler. Il y avait par exemple la stratégie du repas de secours à mettre en œuvre quand on a beaucoup d'invités ou des invités importants. Il s'agit de toujours tenir prêt un second dîner de secours au cas où, 1, le premier repas brûlerait ou serait raté, 2, un des convives n'aimerait pas le menu ou serait allergique à un de ses composants, 3, on renverserait le plat par terre en l'amenant à table, 4, le four pourrait tomber en panne au dernier moment, etc., etc. La vie des personnes anxieuses et la vie à leur côté est ainsi parfois drôle, mais toujours fatigante. Je dis « la vie » parce que l'anxiété, si on ne s'en occupe pas, a tendance à nous accompagner toute notre vie. C'est une condition chronique. Du coup, s'en affranchir, ça prend souvent du temps. Pour faire simple, on pourrait dire qu'il y a 3 phases dans notre rapport à l'anxiété. La résistance, la coexistence et puis la transcendance. La résistance, tout d'abord, les bénéfices et les avantages de l'anxiété dont nous parlons aujourd'hui avec Wendy Suzuki n'existent que si cette dernière n'est pas dévorante, ravageuse, maladive. Dans ce cas, il est important de commencer par la soigner et par lui résister. Important de ne pas obéir à ses injonctions constantes à faire attention à tout. Puis, après quelques mois, ou quelques années, vient la deuxième étape, la phase de coexistence. On comprend qu'on ne pourra pas totalement supprimer l'anxiété, qu'il va falloir vivre avec elle, s'accommoder de sa présence, en prenant juste soin de ne pas la laisser conduire notre vie. Si on compare notre vie justement à un trajet en voiture, ça veut dire qu'on lui reprend le volant, au lieu de laisser l'anxiété conduire. Mais on sait qu'elle va rester là, assise à nos côtés, comme un passager stressé qui ne cesse de soupirer, de sursauter, de nous inciter à la prudence, de se demander quels ennuis nous attendent à l'arrivée. À la longue, on finit par ne plus trop l'écouter et par s'y habituer.
Pour avoir si souvent dormi
avec mon inquiétude,
je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul
avec mon inquiétude.
Oh, désolé, Georges.
Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul
avec mon inquiétude.
La solitude revisitée par Christophe André.
Voilà, désolé, toutes mes excuses à Georges Moustaki pour le détournement de sa très belle chanson. Et on n'est jamais seul, effectivement, avec son inquiétude. Elle prend tellement de place à notre esprit. Mais peu à peu, après lui avoir résisté, à force d'affronter librement la vie, malgré ses mises en garde, on en arrive donc à une coexistence pacifique avec elle. Et on finit même, comme on le ferait pour un vieux copain pénible mais intelligent, par lui trouver des qualités. Car l'anxiété nous rend lucide, réceptif et curieux. Bon, il s'agit juste de faire que cette lucidité ne porte pas que sur les adversités de toute vie humaine, mais aussi sur les facilités. Que cette réceptivité ne soit pas seulement tournée vers la souffrance, mais aussi vers le bonheur. Que cette curiosité ne porte pas uniquement sur le dépistage des dangers, mais aussi sur celui des ressources, des aides et des soutiens. Bref, après la résistance, après la coexistence, il s'agit d'accéder à la phase de transcendance de notre anxiété, de lui fixer des objectifs plus élevés que la simple surveillance des petits dangers. C'est là que la méditation peut nous aider. Quand nous nous sentons inquiets, ne pas céder à l'anxiété, lui permettre d'être là à notre esprit, mais élargir notre attention à tout le reste. Comment ? C'est simple. S'asseoir, tourner son regard vers le ciel, l'océan, les montagnes, les arbres, l'horizon, le monde entier, et juste rester là, respirer. Attendre, jusqu'au moment où on arrive à sentir que l'étreinte de l'anxiété sur notre corps se défait doucement, que peu à peu s'éteint et se calme son bavardage incessant, jusqu'au moment où tout le reste devient plus important, plus intéressant que l'inquiétude. Les difficultés et les soucis sont toujours là, mais ils sont dilués dans l'immensité du monde auquel nous sommes ouverts. On comprend alors les mots du poète Christian Bobin. « J'épluchais une pomme rouge du jardin, quand soudain j'ai compris que la vie ne m'offrirait jamais qu'une suite de poèmes merveilleusement... De problèmes, pardon. C'est bien les poèmes aussi. Merveilleusement insolubles. Alors, cette pensée, est entrée dans mon cœur l'océan d'une paix profonde. Tu as raison, Christian. Peut-être devrions-nous consacrer plus de temps dans nos vies à manger des pommes en pleine conscience.
Les chaussures de Christophe André à podcaster et à partager sur l'appli France Inter. Allez, on se retrouve dans un instant. On vous proposera une boîte à outils pour faire de son anxiété une alliée. Ce sera juste après Angèle. On s'habitue.
14 ans. Je m'en rappelle, j'ai des crampes au ventre, une humeur de merde. Tous les mois c'est pareil, il y a les jours sans, les nuits sans sommeil. C'est où on apprend qu'on va vivre avec les mauvaises nouvelles. Ouh, on s'habitue toujours à tout, même aux peines. Peut-être à perdre ce qu'on aime. 17 ans, première rupture. Même s'il était temps, mon premier amour, c'est fini, c'est dur. Et d'autres soucis, mais tout finit par passer. Ainsi va la vie, même quand mon cœur s'était déchiré. Toujours à tout, même aux peines, même aux gênes, même à nous, on s'habitue toujours à tout, sauf peut-être à perdre ce qu'on aime. Toutes les fleurs, un jour on se ferme. Pourtant ça fait mal quand s'arrête un cœur. Et moi j'ai grandi, mais malgré le temps passé, jamais je n'oublie ceux qui sans prévenir nous avaient quittés.
Oh, Angèle interprétée, on s'habitue.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Comment faire de l'anxiété une alliée, un super pouvoir? C'est notre thème ce matin en compagnie de la neuroscientifique américaine Wendy Suzuki. Alors, Wendy Suzuki, que retrouve-t-on dans votre boîte à outils pour faire de cette anxiété une alliée?
Bon, il y a plus de trentaine d'outils dans mon boîte à outils. Et bon, il y en a beaucoup dans mon livre, mais les plus étonnants venaient d'un petit bouquin que j'ai trouvé à New York en plein d'écrire ce livre. C'était un bouquin écrit par Lin-Manuel Miranda, le grand écrivain des spectacles musicaux comme Hamilton. Et c'était un petit bouquin de ses tweets. C'est des tweets qu'il envoie à soi-même.
À lui-même.
Chaque matin, chaque soir, c'est des petits tweets gentils, des petits tweets rigolants. Mmh. Et bon, l'idée, l'outil, c'est vous donnez vous-même un tweet comme Lin-Manuel Miranda. Qu'est-ce que c'est que ce tweet? Bon, Wendy, vous êtes, vous parlez français très bien, sans accent, sans faute. Oui. Les tweets comme ça. Et qu'est-ce que ça peut changer la vie? Qu'est-ce que ça peut changer le niveau d'anxiété?
Le premier outil, peut-être, c'est de se rendre compte de son anxiété et d'en faire un levier d'action. À chaque fois qu'une anxiété monte, c'est vraiment de se poser tout un tas de questions. Comment est-ce que je peux agir? Comment est-ce que je peux changer les choses? C'est d'en faire un instrument de connaissance de soi qu'on ne fait pas assez, parce que on peut laisser cette anxiété s'installer, mais il faut en faire un instrument de soi.
Oui, voilà.
De connaissance de soi.
Oui. Et ça, c'est un des super pouvoirs de l'anxiété. C'est transformer une liste d'actions. C'est ça, parce que ça nous rend plus productifs.
Antoine Pellissolo, comment faire de l'anxiété une alliée, un super pouvoir?
Moi, je rajouterais concrètement, il y a vraiment cette notion d'être dans l'action, mais dans l'action au moment présent, comme on dit, c'est-à-dire ne pas se projeter sur ce qui va arriver demain, après-demain ou dans deux ans. C'est vraiment comment je peux agir ici et maintenant pour concentrer mon énergie pour qu'elle soit positive. Et souvent, ça donne un effet, une motivation. Le stress, l'anxiété augmente, même la capacité de concentration, la mémoire, tant qu'elle n'est pas excessive. Et puis, un petit deuxième point que je rajouterais, c'est celui qu'on peut faire le soir en fin de journée. C'est les fameux outils de la psychologie positive, mais qui ont vraiment un sens. C'est de se poser la question de manière brève, de quoi j'ai eu peur aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Et de manière faire un petit état des lieux très vite.
On
en
le fait
disant,
pas assez, ça.
Voilà. Et se dire qu'en fait, il nous est arrivé plein de choses dans la journée, mais qui étaient, favorables, défavorables, mais qu'on s'est beaucoup plus inquiété, en fait, que ce qui est arrivé vraiment. Alors, il y a une fameuse phrase, je pense que Christophe va me reciter l'auteur, c'est à la fin de sa vie, j'ai eu plein de problèmes dans ma vie, dont beaucoup ne sont pas arrivés du tout.
C'est Sioran.
Sioran, bon. Les auteurs de
prédilection de Christophe. Christophe,
un autre outil dont Wendy Suzuki parle dans son livre précédent, c'est tenir son corps en bon état. Exercice physique, alimentation adaptée. Et plus notre corps va bien, plus il va nous aider à ne pas laisser l'anxiété se mettre au volant et au pouvoir en nous.
Marie-Laure, Sunshine.
Oui, un petit point quand même. Quel outil je peux utiliser lorsque la raison de l'anxiété ne dépend pas de moi? Je pense, Christophe l'a cité tout à l'heure, l'éco-anxiété. Les jeunes ont peur des changements, de changements climatiques notamment. Oui. C'est une anxiété sur laquelle ils n'ont aucun pouvoir. Donc, quel outil puis-je utiliser?
Je vais dire qu'il y a des pouvoirs même pour les difficultés du climat. Est-ce qu'il y a 10 choses que vous pouvez faire vous-même dans la maison pour minimiser l'effet des plastiques, par exemple, pour le climat, pour la terre? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même, même pour les problèmes existentiels.
Des petites actions qui permettent d'apaiser cette éco-anxiété. Antoine Pellissolo.
Et les partager, je pense qu'on l'avait dit, je crois, ici, à d'autres émissions, mais vraiment exprimer ses émotions, parce que théoriquement, on les a tous aussi à peu près en même temps, notamment dans les jeunes générations. C'est toujours bénéfique, là, vraiment, de partager ses émotions pour les dépasser ensemble.
Merci beaucoup Wendy Suzuki d'être venue de New York pour venir nous voir. Merci. Je recommande vraiment votre livre, hein. C'est vraiment une mine d'informations et il y a des outils absolument efficaces. Ça s'appelle « Votre anxiété est un super pouvoir, comment s'en servir pour améliorer sa vie ?» et c'est publié chez Marabout. Merci professeur Antoine Pellissonnet d'être venu. Merci au Tic et Tac du mardi, Christophe André et Marie-Laure Sunshine. Demain, on s'intéressera aux premières expériences sexuelles.